C'était bon d'entendre des témoignages. Et tous ces témoignages-là sont une démonstration, si je peux dire, que Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui en 2025. Amen. Et ce matin, on va regarder un petit peu à la suite. C'est une série de messages que j'ai préparés sur les sept « Je suis » de Jésus. Et la dernière fois que j'étais ici, on avait regardé ensemble « Je suis le pain de vie ». Et ce matin, on va regarder « Je suis la lumière du monde ». Et on va regarder, si vous voulez bien, dans Jean, le chapitre 8, le verset 12. Et peut-être que vous pouvez vous lever un petit peu, ça fait un petit bout que vous êtes assis. On peut s'étirer un petit peu. On peut louer le Seigneur un petit peu. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seigneur, on te remercie, Seigneur, encore une fois, qu'aujourd'hui, en 2025, tu es toujours la lumière du monde. Tu es celui qui nous éclaire, tu es celui qui nous apporte de l'espoir, tu es celui sur lequel on peut s'appuyer et ta parole est encore pertinente, réelle, une nourriture pour nos âmes et on te prie que cette parole puisse bénir les cœurs ce matin, nous encourager, nous fortifier, nous ancrer, nous donner une plus grande appréciation pour qui tu es, Jésus-Christ, lumière du monde. Dans le nom de Jésus, on prie et tous on dit Amen. Donc, comme je l'ai mentionné, la dernière fois que j'étais ici, c'était le 2 février, on a vu ensemble que Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu que l'on a inventé, mais c'est une révélation. Dieu se révèle et il se révèle à ceux qui le cherchent. Et on a vu également que notre Dieu est venu se révéler en chair et en os dans la personne de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, vraiment, Jésus se présente à son auditoire comme étant Dieu. Et c'est ça qui choque les pharisiens. Ils s'identifient comme étant Dieu. Ils se révèlent comme étant Dieu. Et au moyen de sept déclarations, j'appelle ça les sept « Je suis », qui expriment clairement la divinité de Jésus. On s'est attardé la dernière fois sur un de ceux-là qui était Jésus, après avoir fait des miracles à profusion, après avoir multiplié les pains et les poissons pour plus de 5000 personnes, après avoir traversé un lac sans barque, et après tout ça, les gens disent à Jésus, « Quel autre signe miraculeux pourrais-tu faire pour qu'on croie en toi? » Et c'est alors que Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui se donne la vie au monde. Et lui dire, alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous l'avez vu, mais vous ne m'avez pas cru. À cette déclaration, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Certains disciples se disaient entre eux, « C'est-tu pas Jésus, le fils de Joseph puis Marie? Ça ne peut pas être Dieu. Comment donc pourrait-il être descendu du ciel? » Là, Jésus, il continue, il explique comment le pain représente son corps, qui sera meurtri, que le sang représente devra être bu à la croix, que c'est un breuvage spirituel. « En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Et après avoir entendu ça, beaucoup de disciples disent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Dès ce moment, beaucoup de ces disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus se tourne vers les 12 et leur dit, « Et vous, voulez-vous pas vous en aller? » Simon-Pierre le regarde, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? T'as les paroles de la vie éternelle. » Et ce matin, c'est ce que je vous encourage à ne jamais oublier. Dans les moments les plus pénibles, les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus s'est révélé comme Fils de Dieu, comme Messie. La foule est partie. Il refusait de croire en cette déclaration de Jésus. Et le voilà seul à Capernaum, à côté de ses 12. Ceux qui le suivaient pour les mauvaises raisons sont tous partis. Jésus demeure en Galilée, au nord de Jérusalem, pendant 6 mois, ce qui nous amène à l'automne, ce qui signifie que le peuple se prépare à se rendre de nouveau au temple pour aller fêter la fête des tabernacles. Puis la fête des tabernacles, c'est pas un juron, tabernacle, là, ça veut dire habitation de Dieu. Malheureusement, on l'utilise comme un juron. Mais c'était une fête parmi les 7. Il y avait la Pâque, pain sans levain, les prémices de la moisson, la Pentecôte, la fête de la trompette, les jours d'expiation ou le Yom Kippour, on connaît ça comme ça, et la fête des tabernacles. Et pendant cette fête-là, c'était célébré à l'automne. On appelait ça aussi la fête des récoltes. C'est la fête de la moisson entière. En fait, c'est de là que nous vient l'action de grâce que l'on célèbre encore aujourd'hui. Et on fêtait les récoltes, et pendant cette fête, les Juifs dévoués vivaient à l'extérieur des murs de la ville, dans des huttes faites de branches d'arbres pendant 6 jours. Et c'est pour ça qu'à Montréal, encore dans les communautés juives, vous allez voir des cabanes dehors pendant la fête des tabernacles. Ils se rappellent encore de ça. On appelait ça la tente d'assignation, et comment Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple lorsqu'il était dans le désert. Et la fête est un rappel que Dieu habite parmi son peuple. D'ailleurs, c'est ça que le mot tabernacle veut dire, ça veut dire habitation de Dieu. Fait que si on te dit tu es un tabernacle, tu dis Amen. Ça veut dire que tu es un lieu d'habitation de Dieu. Fait que la prochaine fois qu'il dit mon tabernacle, tu dis Amen. Normalement, cette fête était célébrée en famille, hein? On allait au temple ensemble en famille. On voit dans Jean 7, 3 et 4, les frères lui dire, ils invitaient Jésus, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, si tu fais toutes ces choses-là, montre-toi toi-même au monde, vas-y, vas-y au temple. » Parce que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Donc, il disait, « Allez, viens au temple avec nous, c'était vraiment ce que tu dis être. Vas-y, épate la galerie, let the show go on, viens-t'en. Tu prétends être le Fils de Dieu, viens avec nous, épate la galerie. » Car Jean 7, 35 nous dit, « Car ses frères non plus, ils ne croyaient pas en lui. » Il disait ça pour se moquer de lui. Mais comme Jésus, lui, obéissait juste à son Père, puis il savait que le temps de la crucifixion n'était pas encore arrivé, fait qu'il a décidé d'attendre. Il demeure à la maison. 3 jours plus tard, il décide de quitter, se rendre à Jérusalem. Sachant que le temps qu'on voulait le faire mourir, que le temps n'était pas encore venu, Jésus quitte Capernaum en Galilée vers la Judée, se trouve à Jérusalem. Il se rend là discrètement, tout seul, au temple, pour se révéler davantage à ceux qui voulaient bien l'entendre. Donc, les 3 premiers jours de la fête se déroulent sans Jésus. Bien qu'il soit absent, on parle de lui quand même. Les rumeurs courent à son sujet. On voit ça dans Jean 7, 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs, c'est-à-dire les chefs religieux, ils le cherchaient pendant la fête. Ils disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « Oh, c'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, 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 il égare la multitude. Va pas voir Jésus. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs, des chefs religieux. En d'autres mots, on parlait de Jésus, mais discrètement, sans vouloir se faire voir, par crainte des Juifs. En d'autres mots, les autorités, les chefs religieux de l'époque qui voulaient éliminer Jésus. Et encore aujourd'hui, bien que Jésus soit physiquement absent, beaucoup de rumeurs circulent à propos de Jésus. Certains disent, oh, qu'il est un personnage fictif, c'est juste une invention pour contrôler le peuple. D'autres, voient, c'est juste un prophète, un autre prophète parmi tant d'autres. D'autres encore aujourd'hui pensent que Jésus, il égare la multitude. Va pas à Jésus, il va te brainwasher. Mais il est de plus en plus difficile, vraiment, de parler librement de Jésus dans nos communautés, dans nos travails, par crainte des autorités. Ah, si tu parles de Jésus à ta job, t'es out, mon chum. Si tu parles de Jésus à l'école, non, 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 non. Tu peux parler de n'importe quoi, mais pas de ce nom-là. Et bientôt, si ça continue et que le gouvernement québécois continue dans sa lancée, on ne pourra plus, ce soit illégal même, de prier publiquement au Québec. En fait, on subit le même sort que les apôtres subissaient au début de l'Église. Souvent, on disait, « Oh, moi, j'aimerais ça que l'Église, c'est comme à l'origine. » On est là. On est à l'origine. Mais voici ce que ça veut dire. On voit ça dans Actes 4, 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons l'heure avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et de même, encore aujourd'hui, on ne peut pas se taire devant ce que l'on a vécu. Et c'est la différence avec les disciples de Jésus-Christ, contrairement à d'autres chefs religieux de ce monde aujourd'hui. Les disciples ne sont pas morts pour des rumeurs, mais ils sont morts à cause de ce qu'ils ont vu et entendu du de leurs oreilles. Ils ne pouvaient pas le renier. Ils étaient prêts à mourir pour ce qu'ils ont vu et entendu. Et les paroles de Jésus avaient de quoi étonner. On voit ça dans Jean 7, 14, vers le milieu de la fête. Jésus montant au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Quelle grande sagesse! Et encore aujourd'hui, si on prend le temps d'écouter les enseignements de Jésus-Christ, on peut juste dire, quelle grande sagesse! Effectivement, Jésus connaît toutes les Écritures. En fait, il est la parole de Dieu. Il est dans le temple, et là, alors qu'il est dans le temple, qu'il fait cette déclaration, il fait d'autres déclarations avec ce qui se déroule à ce moment-là dans le temple. Et ce qui se déroule dans le temple, à ce moment-là, c'est des rituels. Et un de ces rituels, ça consistait à se rendre à la source de Gibbon. Là, il y avait un sacrificateur qui remplissait une cruche d'or, remplie d'eau. Après ça, il retournait au temple, il versait ça sur l'autel afin de se rappeler que Dieu avait fourni de l'eau à son peuple dans le désert en fendant le rocher. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus fait un lien entre le rituel et lui-même. Dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive gratos, gratuitement. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Est-ce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de votre sein ce matin? Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Et l'autre disait, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, est-ce qu'il y a quelque chose de bien de la Galilée? C'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. L'Écriture ne dit-il pas que c'est la postérité de David, du village de Bethléem? C'est-tu bien lui que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Et encore aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, il y a division parmi la foule. Et cette division parmi le peuple a empêché les religieux de s'emparer de Jésus et permis à Jésus de poursuivre son ministère à l'intérieur du temple. Ayant débuté son enseignement dans le parvis des gentils, il se déplace ensuite dans le parvis des femmes. Jésus se rendit dans ce parvis-là où tous les Juifs qui avaient 13 ans et plus, femmes, hommes, étaient libres d'entrer dans ce parvis-là. Ils étaient admis. Et dans ce parvis, juste à l'extérieur du parvis des prêtres, se trouvaient des milliers de personnes. Et ce parvis, c'était un endroit pour un autre rituel. Vous me suivez? Êtes-vous béni qu'il n'y ait plus de rituel aujourd'hui? Les rituels consistaient à allumer des lampes géantes. C'était des grosses chandelles. Ils s'allumaient pour éclairer le temple. Ça projetait la lumière dans toute la ville. Les gens se mettaient à louer Dieu devant cette lumière parce qu'ils se rappelaient comment Dieu les avait accompagnés dans le désert, dans la colonne de feu pendant la nuit. Ils se rappelaient ce que rapporte Exode 13. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Et au moment où les lumières du temple sont allumées et éclairent le peuple, c'est alors que Jésus y va d'une autre déclaration choc. « Je suis la lumière du monde. » Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Il n'a pas dit, « Je suis la lumière de Galilée. Je suis la lumière en Israël. » Non, il a dit, « Je suis la lumière « of the whole world », du monde entier. Lorsque Jésus déclare « Je suis la lumière du monde », il déclare qu'il est le Messie, dont la venue était prophétisée dans les Écritures. Ésaïe nous avait annoncé la venue du Messie comme une lumière qui arrive. On voit ça dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Verset 19 nous dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te recevra de lumière pendant le jour, ni la lune qui éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera la lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, ne va plus s'éteindre, car l'Éternel sera la lumière à toujours. » Jésus-Christ, lumière du monde. C'est également la lumière d'une étoile dans le ciel qui a guidé les rois mages vers la lumière du monde à naître. En fait, Jean, dès le début de son évangile, identifie la venue du Messie Jésus-Christ à une lumière. Au commencement, nous dit Jean 1:1, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et cette métaphore-là qui décrit le Christ comme lumière est tout à fait appropriée si on considère que la lumière dissipe la noirceur. Allume la lumière, puis paf, la noirceur est gone. As-tu déjà vu la noirceur dominer sur la lumière? Impossible. Donc, Jésus-Christ, lumière, La lumière de la vérité qui dissipe la noirceur du mensonge. Il a la lumière de sagesse qui dissipe la noirceur de la folie. Il est la lumière de sainteté qui dissipe la noirceur de l'impureté. Il est la lumière de joie qui dissipe la noirceur de la tristesse. Il est la lumière de guérison qui dissipe la noirceur de la maladie. Il est la lumière qui est venue pour dissiper la noirceur des œuvres du diable, qui a vaincu le prince des ténèbres, qui dissipe la noirceur de la mort. Je suis la lumière du monde, le même je suis utilisé par le Père. Je suis la lumière du monde égale je suis Dieu. Je suis le Dieu de vos ancêtres, David. De mon ancêtre, David, pardon. Psaume 27, 1 nous dit de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Les apôtres ont appris ce fait de la bouche de Jésus même. On voit ça dans 1 Jean 1. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons appris de lui et que vous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et celui qui suit cette lumière, même lorsqu'il se trouve dans le désert, peut avoir cette assurance que cette lumière va le conduire vers la terre promise. « Toi, suis-moi » est l'appel de Dieu à tout homme. Donc, « Toi, suis la lumière. » Marche dans la lumière. Suis le monde. Marche dans mes voies. Laisse les ténèbres et suis la lumière. Jésus-Christ, lumière du monde. Et pour démontrer son point, pour nailer son point, drette faire dans la place. C'est ça qu'on dirait en Acadie. Drette faire dans la place. Jésus, le lendemain même de cette déclaration, passe de la parole aux actes. Et lorsque Jésus fait une promesse, une déclaration, ce n'est pas juste une déclaration en l'air. Ce n'est pas des promesses de politiciens. Oh, pardonnez-moi. En d'autres mots, les bottines suivent les babines. Jean 9, 1, 5, on voit ça. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres du diable soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc, il y avait un homme qui était là, qui depuis sa naissance était aveugle, vivait dans la noirceur, et Jésus-Christ lui fait voir la lumière pour la première fois. Il se déclare la lumière du monde, il fait voir la lumière à un aveugle de naissance. Et encore aujourd'hui, Jésus a la puissance de redonner la vie, la lumière spirituelle, même si depuis notre naissance, on est aveugle spirituellement, qu'on est rendu à 99,9 années. Jésus-Christ a encore la puissance de redonner une vue spirituelle à tout homme qui vient à lui. Peut-être direz-vous que pour nous, en 2025, on n'a pas de temple pour célébrer les victoires de nos ancêtres qui marchaient dans le désert. Conséquemment, la déclaration que Jésus a faite, « Je suis la lumière du monde », en surface a peut-être moins d'impact pour nous. C'est vrai, mais seulement si notre compréhension de la lumière manque de profondeur. Après tout, contrairement à 2000 ans passés, plus ou moins, la lumière est beaucoup plus présente maintenant qu'elle était à l'époque. Il y a la lumière dans les maisons, lumière dans la rue, lumière dans les autos, lumière frontale, lumière de téléphone. On n'est plus à chandelle et à lampe à huile. Pèse si le piton, ça allume. La lumière est tellement présente partout dans nos vies qu'elle est venue une énergie comme pour acquise. Allume la lumière, éteint la lumière, pèse sur le piton, c'est réglé. Mais en fait, la lumière, c'est beaucoup plus que ça. Ça sert à beaucoup plus qu'à seulement éclairer. En fait, la lumière, c'est quoi? Et là, je ne suis pas scientifique, c'est très bref ce que je vais vous présenter. Je connais mes compétences, je connais ce que je ne connais pas. La lumière, c'est une forme d'énergie et c'est une des rares formes d'énergie qui est visible à l'œil nu. L'électricité, c'est une énergie, on ne la voit pas. Mais la lumière, on la voit. Et l'importance de la lumière, elle est incommensurable. En Acadie, on dirait, elle est tellement grande qu'on ne peut pas la saisir. Ces rayons brillants étaient si fascinants que même les scientifiques comme Einstein se sont attardés parce que contrairement à d'autres formes d'énergie, la lumière, elle est visible. Elle se déplace à des vitesses phénoménales et est difficile à expliquer en termes scientifiques. Mais avec les progrès de la science, de la technologie, la lumière a de nombreux avantages, beaucoup plus grands que simplement éclairer. Et elle a de nombreuses applications, et en voici quelques-unes. Un, la lumière, elle est essentielle à la fabrication, à la formation de la nourriture. La lumière, par le processus de ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est la seule source de production alimentaire pour tous les organismes vivants. Ça commence par les plantes, le soleil agit sur les feuilles, ça transforme ça en nourriture. C'est la base de la chaîne alimentaire, ça se transforme en... Pas de lumière, pas de nourriture. Tous les êtres vivants dépendent de la lumière pour leur alimentation et leur énergie. Il n'est donc pas surprenant que la première chose que Dieu a créée, c'est quoi? Bingo! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvant, il dit que la lumière soit. Dans le premier jour, avant même que le soleil fût créé, le quatrième jour, il n'y avait pas de soleil, il y avait de lumière. Oui, la lumière était présente. Et dans le domaine spirituel, Jésus est la lumière du monde. Pas de Jésus, pas de lumière. Pas de lumière, pas de pain de vie, pas de nourriture, mort éternelle. Et c'est pourquoi Jean déclare dans son évangile, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Dans son épître, il écrit également, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Pas de lumière, Jésus-Christ, pas de vie. Pas de lumière, pas de vie. Deux, la lumière permet la vision et la vue. L'œil humain, c'est fantastique. Les scientifiques sont puzzlés par la complexité d'un œil. Mais l'œil, sans lumière, il sert à quoi? Dans le noir, on ne peut pas voir. Dans le noir, il n'y a pas de couleur. Et Jésus, la lumière du monde, nous permet de voir. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, c'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de nos yeux. On peut voir les choses spirituelles parce que Jésus-Christ est lumière. Jésus, qui est la lumière du monde, est la lumière spirituelle qui permet à nos yeux de voir les choses spirituelles. Jésus, en parlant des religieux de son époque, qui refusait de croire que Jésus est la lumière du monde, déclare ceci. Matthieu 15, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Donc, sans Jésus, sans reconnaître qui Jésus est, c'est-à-dire Fils de Dieu, Sauveur, Pain de vie, Lumière du monde, c'est la noirceur, c'est l'aveuglement. Suivre un leader spirituel sans Jésus, c'est de suivre un aveugle. dans la noirceur. Suivre un leader spirituel sans Jésus, c'est comme suivre un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, lumière du monde, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Dans la noirceur, il n'y a pas de couleur. Et une vie sans Jésus, lumière du monde, c'est une vie sans couleur. C'est une vie plate. C'est une vie monotone. C'est une vie sans espoir. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce cheminement, on devient de l'engrais. Mais avec Jésus, on a de l'espoir. On s'en va rejoindre la source de toute lumière. Et vous savez quoi? C'est pour ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Vous trouvez que je suis long? Attendez dans l'éternité. Attendez dans l'éternité. Attendez dans l'éternité. Je suis mêlé dans mes feuilles, excusez-moi, j'ai mal tourné ça. Je vous reviens. Je suis venu comme une lumière dans le monde, nous dit Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et ceux qui le reçoivent sont pleins de couleurs. La lumière est également bonne pour notre santé. L'exposition au soleil est essentielle à la vie parce qu'elle aide à produire de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est une vitamine nécessaire à la santé des os et au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et pour obtenir une dose régulière de vitamine D, il faut s'exposer au soleil. Et j'aimerais vous suggérer que pour être en santé spirituelle, il faut également s'exposer à Jésus, la lumière du monde, afin de recevoir notre dose de notre vitamine D. Et la vitamine D, quand l'on reçoit, lorsqu'on focalise sur Jésus, vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle la vitamine D pour la vitamine divine. La vitamine D pour la vitamine divine. Et comme il est important de s'exposer au soleil régulièrement pour la santé de notre corps, prenons du temps pour s'exposer à Jésus-Christ, lumière du monde. Proverbe 4 nous dit que celui qui médite sa parole, c'est la santé pour tout leur corps. Celui qui s'expose régulièrement à la parole vivante, qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire nos sentiers, est immunisé contre la noirceur éternelle, contre les œuvres des ténèbres. Colossiens 1:12 nous dit « Rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la noirceur, dans la lumière, et qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. » La lumière favorise également la croissance. Vous avez remarqué, si vous avez des plantes chez vous, hein, quand ça a de la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est exactement ce qu'on doit faire. Si on veut avoir de la croissance spirituelle, la croissance dans nos vies, il faut s'exposer à la lumière. Pas tourner dos à la lumière, mais s'exposer à la lumière. Afin que Jésus, par son esprit, par sa parole, par sa vie en nous, nous permette de croître, d'aller de victoire en victoire. Dans la vallée, comme sur la montagne, la lumière favorise la croissance. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », l'auditoire faisait un lien vraiment avec l'histoire du peuple, avec l'Éternel qui allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Et avec les prophéties de l'Ancien Testament où Dieu annonçait la venue du Messie par la venue de la lumière, mais il est intéressant, mais non pas surprenant, de constater que lorsque Jésus a fait cette déclaration, il s'adressait également à nous en 2025. Parce qu'il savait tout ce que la lumière pouvait faire pour un organisme vivant. Il savait que la science aurait une compréhension de ce que la lumière pouvait faire pour nous. Et il savait qu'il était cela. Lorsqu'il a fait cette déclaration, il l'a fait aussi pour nous, pour qu'on réalise que tous les effets que la lumière a sur ce qui est vivant, lui peut avoir cet effet sur nous. Il savait bien, avant que l'homme l'ait découvert, que la lumière est essentielle à la production de la nourriture, tout comme Jésus, le pain de vie, est nourriture. Il savait qu'il est essentiel, la lumière à la vue, tout comme lui est essentiel à une vue spirituelle, essentiel à la santé, comme lui est essentiel à notre santé spirituelle, à la croissance. Si on passe du temps avec lui, on va croître comme des belles plantes vertes, radieuses, qui sont arrosées par les eaux du Saint-Esprit et qui vivent une vie pas toujours facile, pas toujours des jardins de roses, mais une vie victorieuse. Amen. Jésus nous invite à le suivre, à marcher dans la lumière. Et si, comme dans l'histoire qu'on a lue, une personne aveugle depuis sa naissance peut recouvrir la vue, il suffit aujourd'hui, en 2025, d'une rencontre avec Jésus afin qu'une personne puisse voir spirituellement. Donc, sur la montagne, on doit se rappeler qu'il faut marcher dans la lumière. Dans la vallée, il faut marcher dans la lumière. Ça va bien? Marche dans la lumière. Ça va mal? Marche dans la lumière. Parce que tout n'est que pour une saison. 2 Samuel 22, 29 dit: oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire, écoutez bien ceci, mes ténèbres. Oh, pas juste les ténèbres, mes ténèbres. Mon Dieu est ma lumière et mon salut. Il éclaire mes ténèbres. Je veux dire comme notre sœur, j'entends pas votre amen! Amen! Là-bas, je l'ai entendu, mais je l'ai pas entendu là-bas, j'entends pas votre amen! Amen. Et pour tous ceux qui auront suivi la lumière pendant leur pèlerinage dans ce monde de ténèbres, ils auront une place dans le royaume des cieux que Jésus, lumière du monde, éclairera pour... On voit ça dans Apocalypse 21-22. « Je ne vis point de temple, oh, dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme lumière du monde, nous passerons l'éternité dans la lumière. Et cela devrait nous donner une assurance, bien qu'il soit difficile, d'accepter qu'un jour, et pour certains, c'est plus vite que d'autres, nous passerons dans l'autre vie. Mais moi, je pense qu'on a peur, d'une certaine manière, de la mort parce qu'on a été créé comme des êtres éternels. Parce que le plan de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, c'est des êtres éternels. Nous fussions du péché, la mort n'y serait pas rentrée. Donc, c'est ce combat-là qui est le nôtre face à la mort. On ne veut pas vraiment quitter cette terre ici. C'est comme j'entendais quelqu'un dire hier. Ouais. On aimerait ça partir avec un U-Haul quand ça en va l'autre bord pour emmener notre stuff. Parce qu'on oublie la gloire à venir, la lumière éternelle, la présence de Jésus, la fin de la misère noire. La fin des difficultés, la fin des maladies, la fin des combats. Gardons nos yeux fixés sur la lumière du monde. Jésus-Christ, quand ça va mal, c'est plus dur. Quand ça va bien, on lève nos mains quand même si ça va mal, parce que Jésus-Christ est notre lumière du monde. Je vais terminer là-dessus. Si les musiciens veulent bien venir avec un dernier chant, j'espère que vous ressortirez de ce lieu illuminé par Jésus-Christ, illuminé par sa parole, et que vous vous rappellerez à tout jamais de vous exposer à la lumière afin de croître comme une belle plaine, belle petite plante verte qui garde son focus sur le soleil de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est encore source de nourriture spirituelle pour nous. Je te prie, Seigneur, pour la bénédiction sur cette assemblée, Seigneur Dieu, que tu bénisses chaque famille représentée, que tu bénisses les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans ce lieu, que cette Église soit comme une lumière dans la communauté, qu'on puisse y voir et y recevoir Jésus-Christ, lumière du monde, espoir des nations. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis ses membres. Bénis chaque personne, Seigneur. Et que la gloire de Dieu se répande dans ses vies. Dans le nom puissant de Jésus, Père. On te prie ces choses. Et tout le peuple dit Amen. 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 Et on se lève et on adore notre Dieu, notre Jésus, lumière du monde.
Alléluia. Amen.